maintenant, j'ai le plaisir de donner la bienvenue à Joanie Lavoie et Monica Ward. Elles viennent du Canada. Ils vont nous présenter un partenariat tout à fait particulier. Joanie Lavoie, elle vient du consortium Erudite. C'est une plateforme canadienne pour la diffusion scientifique. Elle est directrice des opérations. Et Monica Ward, elle est agente principale du contenu et des recherches du réseau canadien de documentation pour la recherche RCR2. Donc, elles vont faire la présentation ensemble. Et j'espère que ça, c'est 15 minutes pour tous les deux. Merci.
Oui, bonjour, merci. On va tenter d'être brève et aussi stimulante qu'un café. Je sais que c'est le moment du café, là, donc on va tenter de faire ça rapidement. Donc, merci vraiment de nous recevoir aujourd'hui, comme on nous a présenté. Donc, ça fait maintenant 5 ans que je travaille chez Erudite. Monica travaille au RCDR depuis 4 ans. Donc, et on était toutes les deux aux premières loges de ce partenariat qu'on a créé il y a maintenant bientôt 2 ans presque, qui nous tient en tout cas occupés depuis 2 ans maintenant. Ça nous fait vraiment bien plaisir de vous faire faire un petit aperçu. Aujourd'hui, ce qu'on vous présente, je vais essayer de peser sur les bons boutons avec les bons doigts. Donc, ce qu'on vous présente en fait aujourd'hui, ça va être d'un premier temps, peut-être un petit bref aperçu de nos deux organismes. Comme on est les dignes représentantes canadiennes, peut-être que ce n'est pas aussi bien connu en France, ces deux organismes-là. Ensuite, on va vous faire un petit survol du contexte canadien, des enjeux de la publication, pourquoi aussi le partenariat a été créé. Et on va finir par les enjeux ou en fait les grands défis qu'on a fait face. Il y en a eu beaucoup, je peux vous le dire. Donc, premier, un petit contexte. Au Canada, il y a la politique du CRSH, donc CRSH qui est l'organisme subventionnaire des sciences humaines, qui a émis une politique de l'accès libre, un peu ce que vous avez, ce que vous vivez actuellement, qui a eu 12 mois aussi de consultation publique et qui arrive avec une politique qui... prônait 12 mois de libre accès pour toute recherche qui est financée par le secteur public. Donc, 12 mois après publication dans une revue devait être en libre accès. Ce projet-là, en fait, a été mis l'an dernier, en fait, en mai cette année. Donc, en mai 2016, tout article qui a reçu une subvention doit être en libre accès. Donc, cette politique-là, ça s'adresse plus aux chercheurs. Il y a aussi, en sciences humaines, sciences sociales, le phénomène des APC, des Article Processing Charges, qui est très, très difficile à appliquer au niveau des sciences humaines, sciences sociales. Donc, il fallait trouver un peu un modèle d'affaires dans tout ça. Il y avait une grande pression de la part des bibliothèques, ou en fait une volonté de la part des bibliothèques universitaires canadiennes d'aller vers le libre accès. Des éditeurs veulent aussi y aller, mais en fait pas à n'importe quel prix. Il doit y avoir certains prix qui doivent être pris en charge par quelqu'un, donc qui fait ça. Donc, le RCDR et Erudite ont décidé de travailler à une solution qui pouvait répondre un peu aux besoins de ces deux communautés-là. Ensuite, donc, petit aperçu d'Erudite. Donc, on est un consortium des 3 plus grandes universités canadiennes francophones d'Amérique. On fait Montréal, Laval et l'UQAM. On est un organisme sans but lucratif qui a été créé en 1998 et qui était au départ mis en place pour être un prestataire de services pour la communauté de recherche. Donc, autant de la production numérique, du balisage XML que la plateforme de diffusion et par la suite est venue la commercialisation. Donc, on a des contrats, en fait, avec ces revues-là et on est un peu leur agent numérique. Ce sont toujours des contrats non exclusifs et c'est très, très axé pour les bibliothèques, en fait, donc pour des services à la communauté de recherche. Et donc, on n'a pas du tout évolué dans la voie de la plateforme commerciale. Le modèle d'affaires d'Erudite, où en fait son financement vient en partie de l'argent des 3 grandes universités, des subventions de recherche aussi. Une certaine partie d'argent d'abonnement qui sert à générer des services d'abonnement et aussi la production, en fait, qui sont la production qui est facturée directement à la revue. Donc, le contenu sur Érudit, en fait, se divise en quatre secteurs. On a un premier secteur qui est les documents, donc un dépôt vert qui est pour la communauté. Donc, tout centre de recherche peut venir déposer directement. Donc, on a environ 3000 documents à l'intérieur. On agrège aussi les thèses de toutes les universités francophones, donc ce qui fait 50 000 thèses environ disponibles. Et on a une autre zone qui est la plus, deux autres zones, donc celle des livres, qui est très, très peu utilisée par la communauté. Il y a tellement d'offres dans ce secteur-là qu'on l'a très peu investi. Mais on a aussi celle des revues, et là, ça se divise en deux. On a les revues savantes, donc peer-reviewed, et on a aussi les revues culturelles ou intellectuelles, en fait, qu'on segmente en deux. Le partenariat ici s'adresse uniquement aux revues savantes. Les revues intellectuelles ou culturelles sont vraiment mises à part et sous un autre modèle économique. Ce qui fait environ 200 000 articles, en fait, documents disponibles sur la plateforme, dont 95 % est en accès libre. Du 5 % qui est commercialisé, c'est sous barrière mobile. En fait, une revue qui vient sur Érudit peut avoir le choix d'avoir la barrière mobile de 2 ans, donc ce qui est environ 87 revues, ou sinon peuvent décider d'être en accès libre complet dès le départ, ce qui est à dire 20 revues. Toutes les archives sont toujours en accès libre, donc on a des articles depuis les années 20 environ, donc des années 20 jusqu'en aujourd'hui en 2013, tout est en accès libre et en fait 5 % est sous commercialisation. On a aussi des revues qui sont uniquement d'archives. On voulait faire juste un petit aperçu parce qu'on s'est rendu compte que souvent les éditeurs ou les plateformes comme Érudit peuvent, en tout cas c'est notre réalité, on est souvent confondu avec un éditeur commercial, ce qu'on n'est absolument pas en fait. Donc au Canada, en globalité, il n'y a que 300 revues savantes en sciences humaines, sciences sociales, qui est très peu considérée la population, et 40 revues en sciences. C'est le fort attrait des États-Unis qui attire sur nos chercheurs. Donc la plupart des chercheurs préfèrent publier directement dans une revue américaine plutôt que de créer une revue. C'est plus prestigieux à ce qui paraît. Mais donc, pour le côté québécois, ça s'est développé vraiment très autrement. Donc, il y a eu 150 revues qui sont sur Érudit en SHS, en français uniquement. Donc, on a près de 50 % de la production en SHS et ce ne sont que des revues francophones. Et donc, vu l'unicité du corpus, la cohésion aussi sociale au Québec, ça crée vraiment une forte densité de production, en fait, des revues savantes. La plupart sont soutenues par une université. Donc, en fait, il n'y a que des presses universitaires ou des éditeurs scolaires, donc 8 et 4 qui sont des éditeurs considérés commerciaux. Le reste, les associations savantes ou les universités canadiennes sont vraiment soutenues par leur communauté. Donc, c'est très diversifié. C'est une production, en fait, de revues qui est très, très dépendante des subventions gouvernementales et ou de leurs institutions. Je vais passer la parole à ma collègue Monica, collègue anglophone qui fait un très grand effort aujourd'hui de le faire en français. Donc, l'empathie. Soyez empathique.
Merci, Joanie. Le réseau canadien de documentation pour la recherche est un consortium de bibliothèques sans but lucratif, comptant 75 membres à travers le pays. Notre mission est d'étendre l'accès au contenu numérique pour la recherche universitaire au Canada. Nous entreprenons des initiatives à grande échelle d'acquisition de contenu et de licences en vue de mettre en place une infrastructure de connaissances pour soutenir la recherche. En réalité, beaucoup de notre travail touche la négociation de licences offrant l'accès aux contenus, ce qui ressemble peut-être au travail, un peu au travail de Couperin. Au cours de son histoire, le RCDR a eu la chance de recevoir 2 subventions financement gouvernemental. Toutefois, nous fonctionnons actuellement sans subvention ou financement gouvernemental. 100 % de nos licences sont maintenant financées par nos membres et nos opérations sont également financées par nos membres grâce à une cotisation. Maintenant, j'aimerais parler un peu des défis auxquels est confrontée la communauté savante. Le premier de ces défis est le budget. La majorité des bibliothèques universitaires au Canada voient leur budget stagner ou réduire. La base de valeur du dollar canadien affecte également le pouvoir d'achat des bibliothèques parce que la majorité des bouquets de revues ou d'autres contenus sont payés en dollars américains, en livres sterling ou en euros. L'autre défi est lié au marché lui-même et ça constitue un défi international, non seulement limité au Canada. La concentration des revues dans les mains d'un nombre réduit d'éditeurs commerciaux limite notre pouvoir de négociation et ça qui a l'effet d'augmenter constamment le coût des revues. Lorsque l'on combine ce phénomène avec la réticence de la communauté universitaire à annuler les abonnements, ça devient très difficile pour les bibliothèques de s'opposer fermement à ces hausses de prix. Pour les sociétés savantes en particulier, ça devient plus en plus ardu de survivre dans cet environnement, sans être absorbé par des grands éditeurs commerciaux. Un autre élément est l'existence de plusieurs modèles de libre accès et beaucoup de projets en évolution. Peut-être connaissez-vous les projets présentés ici qui visent à faire évoluer le libre accès. En raison des fonds limités, de nombre important de grands projets et des opinions divergentes sur quel modèle adopter, ça reste un défi de convaincre les bibliothèques de participer dans d'autres projets. Ce qui m'amène à parler un peu de notre entente précédente avec Erudit avant le partenariat. De 2008 à 2013, nous avons offert à nos membres un abonnement consortial au contenu de la plateforme Erudit. Cet abonnement faisait partie d'une initiative spatiale visant à étendre l'accès à des contenus en sciences humaines et sociales à travers plusieurs licences, dont celle d'Erudit. Vers la fin du projet, il était prévu qu'aucune autre subvention gouvernementale supplémentaire n'allait être disponible. Nous avons donc entamé des discussions avec Erudit sur l'avenir possible de notre relation. Au terme de cette discussion, nous avons choisi d'abandonner la formule traditionnelle de l'abonnement. Nos deux organisations ont préféré s'engager dans l'exploration d'un partenariat collaboratif potentiellement plus bénéfique pour toutes les parties. Et maintenant, je vais passer la parole à Joanie.
Merci, Monica. Donc, en fait, ce partenariat-là, on est arrivé, donc on a vu les limites que le réabonnement des bibliothèques allait être très difficile. Et on voulait faire vraiment une entente qui allait répondre à deux grands objectifs, c'est-à-dire dans un premier temps de soutenir la publication et donc de ne plus être seulement que les bibliothèques soient à la fin du processus, mais aussi de favoriser le libre accès. Et c'est pourquoi, dans les actions, la première, c'était d'amener les revues sous commercialisation à faire la transition vers le libre accès, donc les 87, mais aussi de financer les 20 vertueuses qui sont déjà en libre accès et de leur permettre d'avoir un budget, en fait, pour fonctionner et de continuer à faire de la publication. Donc, le partenariat se voulait vraiment de faire le pont entre le modèle traditionnel des abonnements et celui éventuel, en fait, à créer du libre accès complet. Ça nous permettait de faire, de sécuriser les financements tranquillement, tout en poussant quelques bonnes pratiques. Donc, on va voir un peu en détail comment ça a fonctionné. Donc, dans un premier temps, c'était de faciliter l'accès au contenu des revues. Donc, on a préférer y aller vers une transition graduelle, donc d'aller vers 12 mois. Le partenariat, en ce moment, se base pour presque 3 ans. En fait, c'est 2 années et demie. Ça, c'est dû un peu à cause de l'entente d'abonnement. Il a fallu réajuster certaines dates. Mais pour donc les 2 années et demie, le premier objectif, c'est vraiment d'abaisser la barrière mobile à 12 mois. Et aussi d'accéder, donc de permettre l'accès à la recherche sous toutes ses formes, donc aussi aux données de recherche, donc de permettre le text and data mining de façon ouverte pour ces revues-là. Ensuite de ça, c'était de changer cette relation des revues et des bibliothèques ensemble. C'est très difficile quand on est une relation de vendeur-acheteur de passer à partenaire. Il y a toujours une certaine méfiance entre les acteurs qui s'installent et il faut vraiment mettre de l'avant ou en fait bâtir un lien de confiance, ce qui ne se fait pas facilement en fait. Donc c'est vraiment de petits pas en petits pas. C'est aussi donc d'aller puis de cerner les objectifs communs, ça va bien, mais les objectifs divergents, c'est un peu plus difficile à concilier. Donc, d'une part, les bibliothèques voulaient de l'accès libre immédiat, les éditeurs voulaient, eux, repousser le plus longtemps possible, d'abaisser la barrière mobile. Donc, d'arriver avec ce 12 mois nous permettait de concilier, en fait, des objectifs qui étaient divergents pour leur permettre d'y aller vers une transition. Ça a aussi demandé un travail vraiment très, très soutenu entre nos deux organisations. Travail qui était assez ponctuel auparavant, mais maintenant, on doit organiser beaucoup de sessions, beaucoup de travail ensemble. Donc, ça demande vraiment une autre façon de travailler qui est complètement différente. Et pour deux petites organisations, ça demande beaucoup, beaucoup de changements, en fait. On le dit, rassembler les communautés, un des avantages qu'on avait dans cette négociation-là, c'est qu'on représente chacun nos membres. Donc, on a, nous, sous contrat légalement, on peut agir au nom de nos revues. La même chose du côté du RCDR, donc c'est la différence d'association peut-être. Donc là, on a vraiment le pouvoir de représenter. Et ça a été aussi possible pour rassembler la communauté. Il faut aussi la mélanger. On n'a pas l'opportunité au Canada d'avoir des organisations qui rallient un peu comme la BSN qu'il y a en France. On n'a pas ce genre d'organisation-là. Donc, c'est très dur d'asseoir toute la communauté de recherche autour d'une même table pour discuter des enjeux. Il a fallu un peu qu'on assume ce rôle-là par nous-mêmes, donc de créer des événements où on pouvait asseoir tout le monde ensemble, un séminaire sur le libre accès, d'écouter un peu dans cette optique-là. On a ouvert carte sur table en invitant un membre du consortium du RCDR sur le CA d'Érudit, donc en tant qu'observateur. Ça conserve quand même la liberté ou l'indépendance d'Érudit, mais on essaie au moins qu'il y ait une certaine vision des deux côtés ou une vision d'ensemble de tout ça. L'objectif, je dirais, là, il est en quatrième, mais ce n'est pas le moindre, c'est de garantir le financement. Donc, auparavant, dans un modèle traditionnel d'abonnement, on demande un montant pour chaque. Donc là, on est allé avec un montant global pour tout le consortium, qu'ensuite de ça, c'était au tour du consortium de se retourner vers ses membres et puis de réussir à aller chercher ce montant demandé. Ça permettait aux institutions d'aller selon leur capacité de payer de chaque membre. De notre côté, du côté d'Érudit, les redevances étaient basées sur, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a gardé les mêmes montants d'abonnements qui étaient reçus de ce partenariat-là et on les a sécurisés pour 3 ans. Et les redevances, donc de ces redevances-là, maintenant, sont remises directement aux revues, vu qu'Érudit, en fait, la plateforme Érudit, elle est financée par d'autres façons. On a pu couper le poste en fait, ces postes budgétaires d'abonnement, on a pu réduire ça, donc tout cet argent revenait directement aux revues. Voilà, peut-être aussi, on a les étapes, mais les grands enjeux auxquels on a fait face, dans un premier temps, on peut dire... Bien, la confiance qu'on parlait tout à l'heure, là, ça a été très difficile à gérer. C'est vraiment de petits pas en petits pas, de petites actions pour démontrer la bonne volonté de chacun. C'est pour ça qu'on est allé avec un très court partenariat de 2 ans et demi qu'on renouvelle à chaque 3 ans comme ça pour aller de plus en plus long et déterminer ainsi ça va être quoi les objectifs pour aller vers le libre accès complet. Il faut aussi, en fait, dans un autre enjeu qui n'est pas le moindre, c'est le langage. Vous le voyez, là, français, anglais, il faut toujours tout traduire dans un deux temps, mais il y a aussi comment convaincre une université anglophone de soutenir la publication en français. Au Canada, c'est très politique, donc sur quels arguments se baser? Le RCDR a dû travailler très fort pour réussir à démontrer qu'il faut soutenir, non pas sur les méthodes d'acquisition usuelles, c'est-à-dire les statistiques de consultation, l'usage, etc., mais d'aller sur vraiment d'autres bases et d'y aller dans un objectif beaucoup plus stratégique et objectif, c'est-à-dire de soutenir le libre accès. Ensuite de ça, pour Érudit aussi, c'est comment on va reverser l'argent éventuel. Dans un premier temps, c'était un peu facile. On prenait les revenus d'abonnement et on les redonnait. Maintenant, il va falloir ouvrir et prendre d'autres critères, donc des critères un peu plus de... tout en prenant compte, en fait, de la spécificité du corpus québécois, c'est-à-dire on ne peut pas y aller que par l'usage parce que c'est des revues de niche très précises. Donc... Sur 3 niveaux pour le renouvellement, il y a dans un premier temps une enquête sur le financement des revues pour faire les prochaines étapes, pour avoir les montants très spécifiques de combien ça coûte véritablement publier. Donc, on fait une enquête nationale sur les revues savantes. Donc, ce n'est pas juste les revues d'Érudit, mais c'est toutes les revues. il faut aussi réussir à ouvrir ce partenariat-là à d'autres consortiums pour réduire la pression sur un seul membre, mais le diffuser à plusieurs membres. Et c'est aussi de s'inscrire à des niveaux internationaux parce que plus on échange des idées, plus il y a de nouvelles idées qui émergent à travers tout ça. Plus on peut faire face aussi à d'autres enjeux qu'on n'a pas nommés ici, mais il y en a plusieurs. On aurait pu faire 2 heures sur cette conférence-là. Donc voilà, on essaie d'être bref le plus possible.
Merci beaucoup. Merci Joanie et Monica.
Jacques Lafay, je suis chargé de mission à la présidence de l'UPMC pour les questions de documentation. Donc, effectivement, on a les mêmes problèmes en France, je crois, dans l'édition, surtout en SHS, pour les questions d'embargo. Mm-hmm. Et on en a parlé hier, la ministre en a parlé hier soir, justement. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, on a fait des études, une étude récente initiée par le ministère de la Recherche, a montré qu'au bout d'un an, les revues, notamment en SHS, enfin surtout en SHS, étaient beaucoup moins consultées. Donc l'intérêt est de faire des embargos qui soient de moins d'un an. Mm-hmm. Donc comment discutez-vous de ça et comment c'est perçu par ces petits, entre guillemets, éditeurs, petits par rapport à nos multinationales dont on parle souvent, et surtout, comment ça se passe chez vous au Canada ?
Merci. Bien, en fait, on a à peu près les mêmes résultats. C'est pour ça qu'on veut aller vers le libre accès complet. Puis, une des données, parce que ça fait déjà un an et presque demi que ça roule, cette entente-là, et les revues avaient le choix de rester avec le 12 mois ou d'aller vers l'accès libre complet. Et de 20 revues, on est passé à 26. Donc, il y a 6 revues qui ont déjà décidé d'aller vers le libre accès complet parce qu'elles réalisent que tant qu'à faire le 12 mois et tout, allons vers le libre accès complet. Mais c'est sûr que pour ces 6-là qui ont décidé, on en a certaines qui sont toujours aussi très, très réticentes puis qui veulent, en fait, le 12 mois pour elles, elles y tiennent mordicus parce qu'elles tirent encore des revenus d'abonnement de ça. Donc, il y a vraiment une grande tension. Je dirais que ce n'est pas terminé, même si on est allé, la politique, nous, elle est tombée, elle est officielle. Il y a encore vraiment énormément de tension et on le voit. Donc, il y a vraiment il y a une grande polarité des deux côtés, mais un organisme comme Érudit puis le RCDR ont décidé de faire le pari puis de trancher puis d'y aller progressivement, d'y aller vers 12 mois. Puis après, là, on va voir la suite, comment on y va, mais tranquillement d'aller vers l'accès libre complet pour essayer de sécuriser. Ce qui est important de faire dans ces cas-là, c'est de faire des études sur à quel point la diffusion en accès libre est importante. Et c'est une autre chose qui se fait en ce moment. Puis on essaye aussi de la rattacher à ce qui a été fait en France par l'IPP sur la diffusion. Donc, on essaye de rattacher pour que les résultats, en fait, soient... On aurait aimé que Érudit soit pris dans cette enquête-là pour que ça soit fait dès le départ, mais d'essayer de montrer que la diffusion en accès libre a une valeur. Puis c'est ça qui est l'enjeu, c'est de... L'accès libre, il faut arrêter de voir ça comme quelque chose de gratuit. Il faut réussir à mettre une valeur. Puis en ce moment, on n'a que la diffusion pour montrer qu'il y a une valeur à ça.
Merci. Merci beaucoup. Un fort applaudissement pour Monique et Joanie.